Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de décembre. Et je choisis des récits plutôt, des récits souvenirs qui vont vous tenir en haleine parce qu'ils sont écrits par de grands écrivains pour ces fêtes de fin d'année afin de vous permettre de passer en 2023 la tête pleine de rêves quand même parce qu'aujourd'hui les rêves semblent difficiles. Voilà. Par exemple, si vous lisez le nouveau roman de Sylvain Tesson qui s'appelle « Blanc, blanc comme la neige » qui est paru aux éditions Gallimard, et donc avec son ami, le guide de haute montagne, Daniel Dulac, il est parti de Menton au bord de la Méditerranée pour traverser les Alpes à ski. Voilà, à ski, jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie, de 2018 à 2021, en 4 étapes, à la fin de l'hiver, en mars-avril. Et comme il le dit, nous nous élevions dans la neige, le ciel était vierge, le monde sans contour, seul l'effort décompté. Les jours, je croyais m'aventurer dans la beauté, je me diluais dans une substance, dans le blanc tout s'annule, espoir et regret. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté? Eh bien, pour le savoir, lisez ce beau roman, beau dernier roman de Sylvain Tesson qui s'appelle Blanc, voilà, et qui est paru chez Gallimard. Alors ensuite, je voulais vous parler au fil du Lot de Jean-Luc Muscat aux éditions Le Mot et le Reste, que j'aime beaucoup. Voilà. Le Mot et le Reste, au fil de l'eau, ce marcheur Jean-Luc Muscat est un marcheur au long cours et il interroge notre relation au vivant. Et suivre le Lot, parce qu'il n'habite pas très très loin, donc c'est une rivière qui l'appelle, qui le fascine. Voilà une idée capable de satisfaire un désir d'itinérance le temps d'un été. Partir à l'amont, en Lozère, depuis la montagne du Goulet, où la rivière n'est qu'un filet d'eau, et puis où elle se coule jusqu'à la confluence, où elle se coule dans la Garonne, pendant près de 500 kilomètres. Après avoir marché, l'auteur de ce journal de bord range ses chaussures dans le fond d'un canoë, navigue quelques jours à bord d'un canoë, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile de côtoyer cette rivière. Il faut mieux le faire sur un canoë. Il navigue quelques jours, puis pose à nouveau ses pieds sur la berge, puis il enfourche son vélo, parce qu'il y a quand même une route, pour les dernières étapes. Les métamorphoses du Lot, ainsi consignées, compose ce récit, le récit au fil du Lot, ainsi le récit à travers 5 départements de ce coin enchanteur et pittoresque de France. Des voix, dit-il, me tirent d'un rêve profond où je naviguais dans un monde régi par l'omniprésence du fait aquatique. J'émerge de mon carré, écarte les branches de robinier, aperçois 2 pêcheurs de l'aube qui progressent vers la pointe. Ils ne m'ont pas vu, de leur conversation matinée d'un fort accent du sud-ouest, je perçois les mots. Énorme black bass, il s'éloigne vers l'îlot. Je n'entends plus que le son caractéristique des bottes en caoutchouc qui tapent dans les mollets. Quelques jurons quand il faut dégager le matériel empêtré dans la végétation. Des rires aussi qui expriment la joie simple de partager un moment d'amitié sous l'égide de la passion. Et c'est bien ce que fait Jean-Luc Muscat à travers ce récit. Il partage un moment d'amitié sous l'égide de la passion. J'ajoute que Jean-Luc Muscat, né en 1954, a appris le métier de forestier. Il connaît très bien le monde des oiseaux qu'il observe durant tout son périple. Aujourd'hui, il se consacre à la marche en solitaire et à l'écriture dans une cabane perchée. C'est bien pour vous montrer quel est ce personnage, Jean-Luc Muscat, dans une cabane perchée, dans un pin sylvestre. Voilà. Et je passe à un autre livre, qui est un petit livre, mais c'est une pure merveille. Ça s'appelle « De sable et de neige ». C'est de Chantal Thomas. Et c'est accompagné de superbes photos souvenirs de toute la famille, d'elle, mais aussi de son père, de sa mère, des grands-parents, des oncles, des tantes, toute sa famille, qui sont réunis avec des photos d'Allen S. Weiss. C'est en folio, mais c'est superbe. Un folio vraiment extraordinaire. De sable et de neige, un très beau titre aussi, parce qu'on va du sable d'Arcachon, de la baie d'Arcachon, jusqu'à la neige une fois à Arcachon, mais aussi dans des pays lointains. Voilà. Un livre de sable et de neige de Chantal Thomas, c'est un livre espiègle et merveilleux, une langue admirable tout en nuances, en délicatesse, où les mots bien choisis disent la beauté du monde et des sentiments, et que je l'ai découvert vraiment, attiré par ce titre, je l'ai découvert vraiment dans cette superbe édition folio. Et c'est bien, si vous ne l'avez pas lu encore, et bien c'est bien comme ça qu'il faut le lire, car les photos parlent d'elles-mêmes, voilà, de Allen S. Weiss, disent tout ce que Chantal Thomas n'a peut-être pas dit dans les silences. Au départ, on est sur la plage à Arcachon, il y a elle, entre son père et sa mère, son père grand sportif, pêcheur et grand sportif, qui sera son héros. Hier soir, dit-elle, avant d'aller dormir, j'ai eu envie d'expérimenter le jacuzzi installé au pied de la terrasse en bois qui prolonge ma chambre. Je me suis enveloppé dans un peignoir de bain et j'ai descendu pieds nus l'escalier menant directement dans l'enclave du jacuzzi. J'ai suspendu le peignoir à une branche d'arbousier, soulevé la couverture et déclenché en deux pressions le bouillonnement brûlant prêt à me recouvrir. Ce fut un plaisir de sentir à la fois le tourbillon de bulles m'enrobant de sa chaleur et la fraîcheur de la nuit, laquelle se concentrait tout entier sur mon visage humide de gouttelettes mêlées de l'eau du bain et de ma sueur. Voilà, pour vous montrer comment, pour vous dire comment elle écrit, comment, voilà, elle formule ses souvenirs. Elle n'oublie pas non plus que l'océan a une dimension tragique. Cela fait partie de sa beauté, de l'effroi de sa beauté. Alors c'est vrai que beaucoup de choses sont dites dans ce livre et je ne peux tout vous raconter, mais je vais vous parler quand même que dans son enfance, les excursions au Cap Ferré avaient l'importance de voyages. Voilà, c'était des journées entières pleines. Nous quittions le bateau de mon père. Il en profitait pour aller pêcher tranquillement en solitaire et nous prenions le petit train qui nous conduisait à la plage de l'Horizon, une plage qui porte bien son nom-là, puisque de là, un paysage immense, illimité, s'ouvrait devant nos yeux, mer et ciel pris dans des variations infinies de bleu, de vert, de violet, habité de toutes les nuances de gris par temps couvert ou étincelant dans les beaux jours de printemps et d'été. Il y a aussi les huîtres, bien sûr, et la pêche sur la plage. De date importante, le 21 février 1956, il règne un calme surnaturel. Je me lève pour ouvrir les volets, mais il résiste. Pourquoi ? Eh bien, elle va savoir, parce qu'elle va voir sa mère, qui a revêtu un manteau sur sa chemise de nuit, et me montre mon père qui s'apprête à dégager un morceau de trottoir qui passe devant la maison avec une pelle. Il est tombé à Arcachon plus d'un mètre de neige pendant la nuit, du jamais vu. Alors un autre monde, la neige qu'elle va découvrir. Et puis avec la neige, elle va découvrir le ski. Et son père est un très bon skieur, donc il va l'entraîner vers le ski, vers les pistes de ski. C'est vraiment à lire dans cette version-là, parce que, je veux dire, c'est si riche que je ne peux pas tout résumer, malheureusement. Alors l'autre date importante qui va bouleverser sa vie, c'est que le mercredi 2 janvier 1963, mon père était mort dans la froideur et l'indifférence d'une chambre de clinique. Là, il y a un mystère, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les médecins ont eu l'air un peu bizarres. Mais désormais, je vivrai sur deux temps. Le temps figé du deuil impossible, le temps mobile et miroitant de l'événement, et puis la mort de mon père, une partie de moi cachée, et devenir Pierre. L'autre a fait de justesse un saut de côté et a rejoint le courant de la vie, sa merveilleuse fluidité. C'est pour cela qu'avec son compagnon, eh bien, elle a été au Japon, à Kyoto, voir l'art japonais. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a une très très belle peinture de l'art japonais qu'elle a découvert là, le ski club, tout ça, tous les souvenirs que je viens de vous parler, avec un pont, le Japon est un pont qui traverse le temps. Ainsi, cette grande romancière explore l'intimité de la mémoire. Elle exprime les sensations les plus fugitives et les plus essentielles dont nous sommes tissés, et dit le lien d'amour entre une fille et son père, sa force d'absolu. Ainsi, de la grande dune d'Arcachon où elle grandit, jusqu'à la ville de Kyoto sous la neige le 31 décembre 2010, Chantal Thomas nous offre une splendide fresque pour célébrer l'éclat des choses et la puissance de leur silence. Voilà, une langue admirable tout en nuances. Superbe, on peut peut-être faire une pause musicale, une courte pause musicale. J'ai choisi une badite in ri. J'aurais voulu vous parler d'un autre compositeur que je découvre, redécouvre, qui s'appelle Stravinsky. Et c'est vrai que grâce à Jean-Yves Larouturou, je vous en parlerai après, ma vie avec Stravinsky, je redécouvre toute cette musique fabuleuse. Bien sûr, on se souvient du Sacre du Printemps, qui a été révolutionnaire, mais il y a plein d'autres musiques. Mais je n'ai pas encore reçu l'Oiseau de Feu, mais pour la prochaine fois, je l'aurai, l'Oiseau de Feu, et je pourrai vous faire écouter quelques extraits de l'Oiseau de Feu. Donc voici une badinerie de Jean-Sébastien Bach, que Stravinsky connaissait bien, par Katia Buniatis-Vili. Voilà. Alors, je vous parle d'un livre qui a été une révélation pour moi. Stravinsky par Jean-Yves Larouturou. Ma vie avec Stravinsky, qui vient de paraître chez Gallimard, dans la collection Ma vie avec. Un après-midi d'octobre 1968, le plus grand compositeur vivant fait irruption dans la vie d'un garçon de 7 ans et lui fait don d'une musique somptueuse, fracassante et quelque peu délurée. Il s'agit de Igor Stravinsky, qui vient de Saint-Pétersbourg, qui a eu une très très bonne formation musicale et qui est venu en France et qui meurt au printemps 1971 aux États-Unis. Mais pour l'enfant, l'adolescent, bientôt le jeune adulte, la traversée du continent Stravinsky, qu'il connaît admirablement bien, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment lire ce livre-là. Il y a eu un autre livre qui était paru, mais je pense que c'est celui-là qu'il faut lire. Traversée du continent Stravinsky, que cette traversée se poursuit sous le signe de la stupéfaction et de l'éblouissement. Voilà. Et ce jeune Jean-Yves Larouturou est devenu un musicien accompli, pouvant jouer plusieurs instruments de musique. Donc, il connaît vraiment très très bien toute l'œuvre de Stravinsky. Ce Stravinsky a été français, venant de Saint-Pétersbourg. Et puis, pendant la Grande Guerre, il est allé un peu se réfugier au bord du lac Léman, où il a pris des contacts avec Ramuse, avec Ansermé, avec... Et puis, voilà, en Suisse, donc, et puis après, avec la guerre de 39-45, en mai 40, il est parti aux États-Unis. Il y resta qui vont l'accueillir en triomphe. Donc, Jean-Yves Larouturou, dans ce livre « Ma vie avec Stravinsky », fait le récit d'un compagnonnage joyeux avec l'univers musical en perpétuelle révolution. Compositeur de création inouïe et d'archétype intemporel, mais aussi gentleman cambrioleur de 8 siècles de musique savante et populaire. Oui, parce que Stravinsky... qui avait une très bonne formation au départ par de grands compositeurs russes, donc était déjà sensible à la composition musicale. Il ne s'est pas enfermé dans un tunnel ou une bulle, mais au contraire, il était ouvert à beaucoup d'influences. J'ai parlé de Jean-Sébastien Bach, mais il y a bien d'autres compositeurs aussi qu'il a plus ou moins fréquenté. C'est pour ça que Jean-Yves Larouturou dit que c'était un gentleman cambrioleur, utilisant aussi pour ses compositions des effets venant d'autres compositeurs. Et puis donc, il y est, après l'école de Notre-Dame, à la Carton Music qu'il aimait. Et puis, il terminera par une symphonie, parce que s'il y a eu des musiques profanes, il y a eu aussi donc des musiques religieuses, parce qu'il avait une grande foi, ce Stravinsky. La foi un peu de ses débuts. Donc, la symphonie des psaumes aussi, que j'aurai un jour, eh bien, peut-être que je pourrais vous la faire entendre, parce que c'est un sommet de l'œuvre de Stravinsky, composé à la fin de sa vie, mais c'est un chef-d'œuvre de la musique sacrée. Voilà ce que je voulais vous dire à propos, mais c'est un petit livre... Mais vivre avec la musique est une source inépuisable de bonheur, de trouble, de plaisir, une joie furibonde et inextinguible. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut lire ce livre de Jean-Yves Larouturou, « Ma vie avec Stravinsky ». Donc, des grands moments aussi de la vie, des compositions de Nijinsky, de toute une époque aussi. Je ne peux pas tout résumer par quelques traits, mais toutes les compositions qui ont été faites, c'est vraiment à lire. On parle de Gérard Depardieu, on parle de tous les gens qui ont des années prodigieuses, qui ont participé, Diaghilev, tout ça. Donc, il y a une foule de renseignements que l'on Petrouchka, que l'on toutes ces œuvres. C'est vraiment très, très bien. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai un cinquième livre qui s'intitule « Rue de la justice ». telle fut la dernière adresse d'une des arrière-grand-mères de Daniel Salenave. Daniel Salenave connaît bien. Elle avait fait un livre, l'autrice d'une trentaine d'ouvrages, romans, essais, récits de voyage, aux éditions Gallimard. Elle a été élue membre de l'Académie française en 2011. Et elle a consacré un livre sur les pays de la Loire qu'elle connaît très bien. Alors, dans rue de la Justice, telle fut la dernière adresse d'une de ses arrière-grand-mères, laveuse sur un bateau-lavoir dans une petite ville des bords de Loire, née en 1863 avec un peu plus de 20 ans à la mort de Victor Hugo, et toute sa vie conserva sur sa cheminée une gravure des obsèques nationales du poète, symbole de la confiance des gens d'en bas, voilà, les petites gens, les gens d'en bas, le peuple, en la toute jeune République, dont ils attendent justice, progrès et instruction. Instruction, celle de l'école. Donc Daniel Salenave, dans ce livre, parle longuement de l'école, de ce que va représenter l'école. L'avenir est à vous. Nos écoles sont pleines de fils de vignerons et de fils de fermiers. Trempés dans l'air des bois et les eaux des fontaines, ils sont partout en nombre et partout les premiers. Salut, vous arrivez, nous partons, vos fenêtres s'ouvrent sur le plein jour, les nôtres sur la nuit. Ne vous imitez pas quand vous serez nos maîtres. Demeurez dans vos champs où le grand soleil luit. Ne reniez jamais vos humbles origines. Et c'est bien ce que défend Daniel Salenave, l'origine. Alors c'est vrai que son arrière-grand-mère, qui s'appelait Laurence Cormeau, en 1879, donc ça remonte loin, a rencontré Jacques-Jean Frémondière, né en 1855, qu'elle épousera en 1881, revenu du service militaire, heureux d'en avoir fini, parce que le service militaire durait 3 ans, donc c'était long, avec ce long exil, comme son propre père quelques décennies plus tôt. Et puis donc on découvre la fée électricité. Elle fait ses premiers pas en Anjou. Il y a aussi les chemins de fer, enfin bref. Le palais des marchands inaugure justement ce mode d'éclairage pour son magasin de meubles. Et pour tout le monde, c'est fabuleux, voilà, l'éclairage. Bon, bien sûr, il faut un certain temps avant que ça vienne dans les habitations. On a toujours une lampe à huile pour s'éclairer. La République s'en attribue le mérite. En fait, pour Daniel Salenave, cette recherche initiale est pour elle l'occasion de faire toute une étude sur ces différentes républiques. Et en particulier la Troisième République. Alors elle pose la question, cette confiance en la République pourrait-elle renaître aujourd'hui, demande-t-elle. En 2018, il m'a semblé entendre chez les Gilets jaunes quelque chose de très ancienne revendication dont étaient porteurs nos ancêtres et les siens, journaliers agricoles, vignerons, artisans, tous ceux que Gracchus Balbeuf nommait les impropriétaires, ceux qui n'étaient pas propriétaires, égalité, justice et reconnaissance. Ce petit peuple disparu, avec ses modestes et farouches espoirs, se passait là, a de l'avenir, dit-elle. Alors c'est vrai que dans ce donc elle part à partir de la veuve donc de cette femme qui s'est mariée, qui a eu des enfants, celui de sa fille qui est devenue institutrice. Donc, quand je vous ai parlé de l'école, l'école a permis justement à des filles de devenir institutrices, la mère de son père, et puis le portrait d'elle-même, Danielle Salnave, un produit des milieux laïcs, où elle a grandi, où elle était formée. On n'avait pas beaucoup d'estime ni de considération pour les croyants reposant sur des vérités révélées, soustraites, dit-elle, à toute vérification. Elle oublie de dire qu'on trouve quand même beaucoup de choses dans la Bible, mais apparemment ce n'est pas son livre que la Bible. Donc elle reste fidèle à cette république laïque, voilà, mais elle accompagne ce récit par des figures, celles donc de Victor Hugo, le républicain engagé dans la défense du peuple, et puis Pasteur vraiment porteur d'espoir, vainqueur de la rage, de très grandes figures. Voilà. Et puis donc, je voulais vous parler aussi d'un... C'est un grand livre que Danielle Salnave, Rue de la Justice, hein, qui coûte 22 euros, qui va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup d'éléments sur cette partie de France, et puis côté de la Loire. Alors, j'ai un sixième livre que je voulais vous présenter aussi, qui est une découverte vraiment dernière, grâce à Gilles Paris, que je remercie. C'est peut-être bien mon coup de cœur, même s'il y a un autre livre que j'ai apporté. Voilà. Alors, nous sommes, ça s'intitule « Ceux des quais ». Il y a une très belle photo en couverture où l'on voit les quais du Rhône. Ça, c'est de Nathalie Bianco, aux éditions 6e. Près des berges du Rhône se trouve tout un petit monde de marginaux, ordinaires et loufoques. Autour de Nono, un clochard flamboyant, patriarche, féru de poésie et amoureux de Cyrano de Bergerac, donc il sait dire des poèmes. Il y a Vava, l'infirmière, qui a toujours sa mallette avec pour apporter quelques médicaments. et puis qui doit rentrer à 20 heures précises au foyer où elle est hébergée la nuit. On va découvrir pourquoi par la suite. Mais alors, donc une douzaine avec des chiens, avec qu'ils aiment faire courir. Tous ont des surnoms parce que un s'appelle Johnny parce qu'il est amoureux de Johnny Hallyday, voilà. Donc après, auprès d'eux, quand commence ce roman, vient s'échouer Malik. Malik est un jeune livreur à vélo, poursuivi par des dealers. Il n'a pas les mains très propres, ce Malik, on va découvrir pourquoi, mais qui sont ses agresseurs. Et c'est la canne de Nono qui va le libérer de ses agresseurs. Voilà pourquoi Malik va, jeune Algérien Malik, va intégrer ce petit groupe. De marginaux vivant ici le plus souvent sur les bords du Rhône. Et puis il y a Roxane, une merveilleuse jeune fille de 18 ans, enfant placé qui le jour de ses 18 ans doit quitter le foyer dans lequel elle vivait et elle s'égare du côté de Fourvière. Elle pense dormir sur un banc la nuit. Mais elle est agressée, donc elle arrive à se sauver et descend donc à Saint-Jean. Et puis elle va trouver un refuge dans un bus qui la prend. Et puis elle va découvrir qu'il y a un autre bus qui peut voyager, dans lequel elle peut entrer et continuer à dormir tranquillement. Que ce bus ne s'arrête jamais, qu'il fait toute la nuit, voilà. Donc des choses comme ça qu'on découvre, je pense que c'est sans doute vrai, sinon pourquoi est-ce que Nathalie Bianco aurait inventé cela. Donc on découvre comme ça tout ce lion que l'on connaît plus ou moins, mais vu du côté de ces marginaux. Il y a même un couple très, très attachant qui, eux, partent et reviennent, mais partent pour faire ou des vendanges ou d'autres métiers, avec leur chien aussi, et puis reviennent. Parce qu'ils font partie de ces marginaux, de ce groupe, autour de Nono. Nono, donc, est le grand, grand personnage. Nathalie Bianco. Et ce n'est pas parce que on n'a pas de toit sur la tête qu'on ne peut pas vivre des histoires magnifiques, pleines de générosité et même d'émotion. Nathalie Bianco, originaire de Lyon, donc connaît vraiment très bien Lyon et utilise tous les quartiers de Lyon. Bord du Rhône, voilà, vraiment un peu tout. Donc vous sentirez bien dans ce livre, Ceux des quais, de Nathalie Bianco aux éditions 6e. C'est une dernière pépite de Nathalie Bianco, un roman formidable et bouleversant, empreint d'humanité. En utilisant sa plume singulière, elle nous raconte des histoires qui échappent à tous les codes pour explorer avec humour et une sincérité désarmante les travers de notre époque qui ont tendance à ne pas regarder justement ces individus, ces gens de la rue. Ce roman se déquait. Et la dernière pépite, c'est ce que j'ai dit, de Nathalie Bianco, un trésor d'humanité. Et donc, il me reste encore quelques minutes. Bon, je ne peux pas tout vous raconter. C'est quand même un gros livre hein, que ce déquet. Vous en aurez pour votre argent. Je veux dire par là que on voit Roxane donc qui va évoluer, qui au sein de ce groupe, qui va se faire, qui va aller vivre quand même, à réussir à vivre dans un foyer parce qu'elle est quand même fragile. Elle n'est pas encore faite pour pouvoir dormir à la dure. Donc tout cela est très très bien observé. Et puis il y aura une histoire avec Malik. Ah voilà, un poème. J'avais noté aussi ce poème dit par le Nono qui se prend pour D'Artagnan. Voilà. Je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée, et je retrouverai Socrate et Galilée. Vous voyez comment cette poésie est très belle. Alors je ne vous parle pas non plus de la fin, digne beaucoup d'émotions, qui remplit beaucoup d'émotions de ce roman, mais on en a presque les larmes aux yeux. Voilà, Ceux des quais, Nathalie Bianco, aux éditions 6e. Et puis, puisque me reste encore un petit peu, quelques minutes, je vais vous parler aussi d'Une écharpe dans la neige de Viveca Sten, qui est paru chez Albin Michel. C'est vrai que je connaissais Viveca Sten par sa série intitulée « Meurtre à son dame ». C'est vrai que c'est plus par la télévision, par Arte, qu'on avait, avec mon épouse, regardé ces séries « Meurtre à son dame ». Que ça nous plaisait pas mal. Et puis, elle avait voulu lire ce dernier roman de Viveca Sten, qui était confiné et qui a profité du confinement pour se lancer dans une nouvelle saga. On peut penser qu'il y aura une suite. Le premier, donc, s'intitule « Une écharpe dans la neige » paru chez Albin Michel. Alors, c'est vrai que c'est un policier. Mais moi, je trouve qu'il y a plus à dire encore sur le changement de la société. Il faudrait que je rencontre Viveca Sten pour savoir si c'était bien son intention de montrer, parce que ce grand roman, donc, qui a la forme d'une enquête policière, qui est une enquête policière, mais il dénonce pour moi un changement de cette société suédoise entre les relations humaines qui paraissent claires et lisses, mais au fil de l'enquête, on découvre que même au sein d'une famille, les apparences sont trompeuses, qu'il y a des secrets ou des silences, et parfois même de la colère. Parce que les rapports, des fois, les gens font des choses qu'ils ne disent pas. Et ça crée une embrouille. Ainsi, sur un télésiège de la station suédoise de R, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé, et dans la neige, plus tard, une écharpe en laine. Nous sommes en décembre, il y a beaucoup de neige et le froid est glacial. Anna Allander, un beau personnage à la fois fort et fragile, récemment virée de la police de Stockholm, on découvre plus ou moins pourquoi, et brutalement, ça pour moi c'est un point comme important, largué par son petit ami Christian, qui lui dit comme ça, alors qu'elle rentre, débarrasse le plancher, prends ta valise et fiche le camp. Alors c'est vrai que les rapports étaient peut-être devenus habituels, mais elle ne s'attend vraiment pas à ce que son ami Christian la largue aussi brutalement. Alors elle doit partir, pour loger où ? Mais grâce à l'intervention de sa sœur Lydia, qui elle est le beau personnage positif, avocate de cette saga, la sœur Lydia, elle va être relogée à Aire dans une superbe maison et reprendre même par la suite, grâce toujours à Lydia, du service dans la police locale de Aire avec l'inspecteur Daniel Lincoln, personnage parfois dépassé par les événements. Ils vont mener qui est lui jeune marié, père d'une petite fille merveilleuse Alice. Il a sa femme, mais c'est vrai que il voudrait bien passer du temps avec sa fille et sa femme, mais l'enquête est là et il est poussé. Donc ils vont ensemble mener l'enquête et découvrir le nom de ce jeune corps, une adolescente morte de froid, Amanda, qui avait disparu après, semble-t-il, une nuit bien arrosée chez des amis. Toute la famille, sa mère Léna, son père Harald et les jumeaux, les enfants plus jeunes, étaient dans l'inquiétude et avaient alerté la police. Et puis même plus que la police, les habitants vont former une battue pour retrouver l'écharpe d'Amanda. Alors une fois que le cadavre sera identifié, il a fallu trouver le meurtrier ou les meurtriers, car il y a trois possibilités. Alors c'est vrai que Anna est un peu cavalier seule, puisqu'elle avait travaillé à Stockholm, et elle va, parce que dans la maison superbe qu'elle habite, à Aire, il y a une femme de ménage qui doit assurer le ménage, mais elle a l'air craintive, comme si c'était une femme battue. Alors Anna va essayer d'en savoir plus sur cette société de nettoyage. Et peu à peu, justement, on va découvrir des choses. Un travail au noir, voilà. Donc, tout ça participe. Anna et Daniel Lincoln vont donc bien mener leur enquête et trouver vraiment qui est le coupable. Bon, mais à la fin du livre, parce qu'il faut bien sûr mener l'enquête. Et entre la rebelle Anna, hantée par ses échecs, mais elle va s'en sortir, et le jeune père Daniel, débordé par son boulot, le courant passe, et c'est bien ensemble, ou en cavalier seul, comme je viens de vous dire, qu'ils parviendront à résoudre cette affaire plus sombre et complexe qu'il n'y paraît. Et découvrir ce que cache ce décor de luxe à l'approche des fêtes de Noël. Ce nouveau roman de Viveca Hasten, un nouveau duo cabossé et attachant qui nous emporte dans un rythme encore plus effréné. Et je trouve, c'est moi qui l'ajoute, elle met en scène donc voilà, dans ce nouveau roman de Viveca Hasten, Une écharpe dans la neige, qui vient de paraître chez Albin Michel, elle dénonce ce manque de communication qui existe entre les uns et les autres. ainsi Elena, qui se sent coupable par rapport à la mort de sa fille Amanda, une adolescente dont elle était plutôt protectrice et qui n'a pas réussi à la protéger, se sent coupable. Et elle est anéantie, le médecin lui donne des médicaments pour dormir, mais personne ne viendra pour essayer de l'aider à s'en sortir, parce qu'elle a quand même deux autres enfants qui auraient besoin d'elle, et puis Harald, son mari, est un peu bizarre, donc je trouve que il y a là... On dénonce Léna qui est incapable de s'occuper de deux autres jeunes enfants et qui choisit la mort à petit feu. Voilà pourquoi je vous invite à lire ce dernier roman de Viveka Sten qui vient de paraître chez Albin Michel, Une écharpe dans la neige, un roman à polar que je vous invite à lire. Voilà. Et on se termine là-dessus. À bientôt, à l'année prochaine.